Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Women of the Seas, le podcast des aventurières de la mer.
Donc Norfolk, c'est une grosse base militaire américaine. On a croisé les gros porte-avions, les avisos, enfin, bon, c'est impressionnant. Nous, on était là avec le petit canon, on est le bateau de guerre, pouf. Écoutez, tu avais les porte-avions américains, on ne va pas faire les malins.
Marion Garnier, 34 ans. Gabière est officière à bord de la frégate L'Hermione, en route vers les États-Unis, dans le sillage du marquis de Lafayette.
Comme beaucoup de gens, je ne savais pas trop quoi faire après le lycée. À ce moment-là, comme par hasard, je lisais des romans maritimes. Et ça me bottait bien. Je lisais Forrester, qui a écrit toute la saga des Hornblower. Donc c'est un peu comme Jack Aubrey de Master and Commander. Mais c'est un autre héros et c'est un peu une autre vision des qualités d'un marin, en fait. Après, j'avais pas du tout fait le lien avec mon futur travail, mais c'était une ambiance qui me plaisait, les combats navals sur des vugréments comme ça. Enfin, à l'époque, c'était les navires de pointe, quoi, plutôt. Et puis, un jour, il y a mon père qui me dit « écoute, je connais un gars, son fils, il fait l'école de la marine marchande, tu devrais l'appeler. » Et donc, on discute de la formation de l'hydro. Et puis, je me suis dit, ça a l'air sympa. Il y avait des matières variées. Il y avait de la météo, de la mécanique, de la navigation. Et ce qui me plaisait aussi, c'est que dans ce métier-là, on pouvait bouger, voyager. On n'était pas enfermé dans un bureau. Et puis, il y avait le côté mécanique aussi, où on apprenait à servir de ses mains. On n'était pas coincé dans le quotidien du métro-boulot-dodo. Du coup, après le bac, je suis rentrée à l'hydro. Et en parallèle, je suivais le projet de l'Hermione qui se construisait à Rochefort. Je suivais la construction. Ils avaient posé la quille en 97. Et donc, tous les ans, j'ai retourné voir l'évolution de la construction. Je crois que c'est en 2006, j'avais envoyé une lettre de motivation en disant je suis encore au lycée. Je ne sais rien faire pour l'instant, mais peut-être un jour je saurai. Et puis à ce moment-là, j'aimerais bien venir sur votre beau bateau. Et puis donc, suite à l'hydro, je suis partie naviguer chez un armateur. Pas du tout sur des voiliers, mais des cargos. Et je continuais à suivre le projet de l'Hermione.
Cette construction, c'est... c'est ce qu'on nous raconte, hein. Apparemment, c'est une discussion de comptoir de trois types qui se sont dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour redynamiser Rochefort, parce que Rochefort est en train de couler sous la vase à l'époque, la vase et les ronds. Et donc, ils se sont dit qu'est-ce que c'était Rochefort? C'était un arsenal. On n'a qu'à reconstruire une frégate. Donc, en partant de là, ils ont commencé à monter une asso, à chercher des fonds et à essayer donc de retrouver des plans pour construire une frégate à Rochefort. Ils ont dû ils avaient reconstruit la Corderie Royale qui avait été détruite, je crois que c'était suite à la guerre et qui n'avait jamais été remise en état. Et après, donc, ils ont remis en état les formes de, les anciennes formes de Radoub. Et là-dedans, ils ont commencé à construire l'Hermione. En fait, à l'époque, Rochefort, c'était un arsenal, donc c'était là qu'on construisait les bateaux de guerre. C'était du même format que l'Hermione pour les tailles moyennes. Et après, il y avait des beaucoup plus gros. C'était les vaisseaux à plusieurs ponts. Et donc, pour que ces bateaux soient opérationnels, il fallait les armer. Donc, c'est-à-dire mettre tout matériel à bord pour que les bateaux puissent fonctionner. Il fallait des voiles, il fallait des cortages, il fallait des tonneaux avec de la viande salée, de l'eau. Et donc, en fait, à Rochefort, il y avait tous ces petits métiers satellites en fait, qui venaient se greffer pour préparer les bateaux. Et donc, au fur et à mesure qu'ils trouvaient des fonds, ils ont commencé à aller chercher du bois, à chercher des savoir-faire pour reconstruire ce bateau. Et puis, un jour, ils se sont dit, pourquoi on ne ferait pas visiter le chantier ? Parce que ça doit certainement intéresser les gens de voir comment on fait ce travail-là, comment ça se faisait à l'époque. Donc, ils ont commencé à faire visiter le chantier. Il leur a permis, en plus des adhésions, de récolter des fonds pour continuer à financer la construction. Ce qui est marrant aujourd'hui, c'est que quand je repense à la coque du bateau lors de la construction et à ce qu'on voit aujourd'hui du bateau, on a l'impression que ce n'est pas le même, en fait. Parce que c'était une grande coque vide, impressionnante, tout en bois. Et maintenant, c'est juste plusieurs compartiments avec plein de bazar. Des toilettes, des douches, une cuisine, et ça ressemble plus du tout de l'intérieur en fait à ce que c'était pendant la construction. Pour reconstruire l'Hermione, ils ont fait venir des charpentiers, mais c'était pas des charpentiers de marine. Ils construisaient surtout des voûtes d'église. Et apparemment, c'est un peu la même structure en fait, avec des membrures. En voûte, quoi, vraiment, donc comme une coque inversée, quoi. Ils avaient dû rechercher comment, par exemple, construire certaines pièces de bois. Et à l'époque, en fait, ils avaient les arbres qui avaient de la bonne forme, parce que ça avait été anticipé, en fait, ce travail-là. Ça faisait partie de la marine de guerre, donc les forêts, elles étaient plantées pour construire des vaisseaux de guerre, quoi. Et donc, ils avaient les bois. Sauf que nous, aujourd'hui, on n'a plus ça. Nos forêts, elles sont peau de chagrin, là, maintenant. Et donc, il y a certaines pièces, ils n'ont pas trouvé les bois. Donc, ils ont dû se creuser la tête pour trouver un compromis, en fait, pour avoir la même résistance, en faisant des assemblages avec plusieurs pièces, par exemple. Pour reconstruire l'Hermione, ils ont mis 17 ans. À partir du moment où ils ont commencé à recruter un équipage, au début, on était juste des bénévoles aspirants marins, on va dire. Le gréement n'était pas terminé, donc on a aidé à mettre en place les dernières pièces du gréement.
Le Congrès de Boston a déclaré l'indépendance des colonies d'Amérique.
Vive le Congrès ! Vive Washington !
Monsieur Franklin ! On ne déclare pas son indépendance, on la conquiert.
Ah, c'est vrai, mais on ne la perd pas non plus, dans une seule bataille.
Si, quand c'est la dernière.
La dernière sera celle où les Anglais seront écrasés.
Par vous, monsieur le marquis ?
Par moi, par vous tous ici qui partirez avec moi.
Vous pouvez disposer d'un bateau ?
Un bateau, ça s'achète.
Vous êtes riche, mais connaissez-vous le prix d'un bateau ? D'une cargaison d'armes ?
La liberté n'a pas de prix, monsieur.
Mais c'est la vôtre maintenant. Que vous risqueriez si le roi venait à apprendre que vous voulez acheter un bateau ?
Il ne l'apprendra que lorsque j'aurai pris le large.
Vous parlez sérieusement, monsieur de Lafayette ? Vous pourriez disposer de 100 à 120 000 livres et du double.
Sans froisser personne ici. Nous partons tous avec contrat en poche et épaulettes sur l'épaule.
Vous ne demandez rien. Et vous offrez navire et armes ?
Ils ont choisi l'Hermione pour son histoire, justement parce qu'elle emmenait Lafayette à porter l'aide française pour la guerre d'indépendance américaine. Ils voulaient construire une frégate. C'est un vaisseau de taille moyenne, en fait, pas un gros vaisseau à plusieurs ponts. C'était vraiment les vaisseaux qui étaient à la pointe de la technologie à cette époque-là, les plus rapides. Et ils avaient quand même une force au combat, en fait. Ils avaient des canons assez puissants, mais en même temps, ils étaient rapides et légers. Donc, c'était vraiment le meilleur compromis à l'époque. C'est une frégate avec trois mâts, un gréement carré, c'est-à-dire que les voiles, c'est pas comme les voiles des bateaux actuels, modernes, c'est du gréement Marconi en forme de triangle aujourd'hui. L'Hermione, c'est des voiles carrées ou rectangulaires, en fait. Qui sont parallèles à la mer. Donc c'est très efficace pour propulser le bateau. Par contre, c'est pas très efficace pour remonter au vent. En fait, l'Hermione, elle tire des bords carrés, donc c'est-à-dire qu'elle remonte pas au vent. Mais elle perd pas non plus. Donc elle fait surtout du travers. Enfin, quand elle navigue au près, concrètement, sur le fond, elle va faire du travers, quoi. Elle a donc une cale, dans laquelle on va trouver, par exemple, la voilerie. Donc, c'est surtout un espace de stockage où on a des voiles de rechange. On a aussi des machines à laver, un petit espace boutique, plein de bazar qu'on stocke là. Après, derrière, il y a la salle des groupes électrogènes. Donc, pour alimenter tout ce qui fait vivre le bord, donc des frigos, des machines à laver, les toilettes, l'éclairage, un peu de ventilation, puis les équipements de navigation. Les groupes électrogènes peuvent aussi alimenter des petits moteurs électriques qui aident à propulser le bateau, donc surtout pour les manœuvres. Et puis quand il n'y a pas de vent ou justement quand il y a trop de vent, un peu pour aider le bateau par exemple tenir sa position ou pas dériver à la côte. On a aussi des caisses à gasoil, forcément. Et puis ensuite, derrière, il y a un local technique. Derrière cet espace, c'est la cambuse. Donc, on a trois cuistots, en quelque sorte, à bord. Donc, un chef, un second et un messman qui vont assurer les repas et l'intendant. Et après, derrière, donc, c'est espace de stockage des denrées sèches. Et ensuite, le dernier espace sur l'arrière, ça va être le local des propulseurs. Donc ça, on était dans la cale. Maintenant, on va monter d'un étage. On va arriver au faucon. Donc c'est là que dort l'équipage, en fait. Tout à l'avant, là, on a un petit espace pour stocker les cordages, poulies, les chaînes, tout un tas de matériel qui servent aux gréeurs et aux bosseaux. Et après, donc, on continue à reculer, aller vers l'arrière du bateau et on a, on va dire, quatre postes. Donc, un poste pour l'équipage professionnel et trois postes pour les gabiers qui sont des bénévoles. C'est trois tiers, ce qu'on appelle des tiers, qui vont assurer la manœuvre du bateau de manière constante sur l'écart des trois lignes. Tout à l'arrière du faucon, on va trouver quelques cabines. Donc, par exemple, il va y avoir la cabine du bosseau, les cabines des lieutenants, il y aura la cabine du médecin et la voilière. Et dans cet espace qui est tout à l'arrière, ça va être la Sainte-Barbe. Donc à l'époque, c'est là qu'ils préparaient les charges de poudre pour les canons. Bon, aujourd'hui, on n'a plus ça, mais on a un petit espace de vie, en fait, fermé, pas exposé aux intempéries, pour les gabiers qui viennent se retrouver là, boutonner un petit peu, et en fait, faire très attention dans ce lieu. Déjà, c'est très bas, donc dans le faucon, on ne peut pas se tenir debout. Et en plus, dans la Sainte-Barbe, il y a la barre franche, donc le timon, qui va parcourir toute la largeur de la zone, en fait, en fonction de la demande du barreur. Donc, si on ne fait pas attention, un coup de barre et puis on peut se prendre le timon dans la tête. Ensuite, on va encore monter d'un étage. Donc là, on va arriver sur le pont de batterie. Donc, c'est là qu'on va trouver les canons. Donc le pont de batterie, il y a une partie qui est exposée aux éléments et une autre partie qui est couverte. Donc la partie exposée, elle est au milieu, c'est la grande rue. Dans la grande rue, on va trouver les chaloupes. On a la chaloupe, le grand canot, le petit canot. En plus, on rajoute un zodiac qui va nous servir de moyen de secours en cas d'homme à la mer. Devant la grande rue, à l'avant, donc c'est le gaillard d'avant, on va retrouver l'atelier du charpentier, l'atelier du Bosco, le groupe électrogène de secours et les guindeaux pour les enfants. Et à l'arrière du pont de batterie, il y aura la batterie, donc c'est le lieu ouvert où on va prendre nos repas. Donc c'est comme un grand réfectoire avec des canons et des tables. Il y a un cabestan aussi au milieu qui nous sert pour les manœuvres de porte, j'espère. C'est là que tout le monde vient prendre ses repas, tout équipage confondu, officiers, commandants, gabiers, touristes. Encore plus à l'arrière, ça va être les appartements du commandant, du chef mécano et du second. Donc c'est la grande chambre. Puis, il y aura aussi tous les équipements de navigation. Et ensuite, on va encore monter d'un étage et on va arriver sur la dunette à l'arrière et sur le gaillard d'avant à l'avant. Sur la dunette, c'est là que l'officier quart va surveiller la navigation. Il aura ses deux barreurs. Il dirige le bateau donc avec une barre à roues, sans aucun système d'assistance moderne. Donc c'est comme à l'ancienne, c'est une barre à roues. Autour de la barre, il y a un cordage qui est enroulé, qui descend, qui passe par des puits et qui vient manœuvrer le timon en sainte barbe. Donc c'est pour ça qu'il faut deux barreurs, parce que c'est vraiment la force de ces deux personnes qui va faire que le bateau tient sa route en fait. Donc, si jamais le vent forcit, les deux barreurs ils vont pas tenir le coup. Donc, il y aura quatre barreurs et on tournera toutes les heures, on changera les barreurs. Là, on était sur la dunette et ensuite, donc, sur le gaillard d'avant, on va retrouver le veilleur qui fait le quart. Donc, lui, il va surveiller tout ce qu'il va voir en fait sur la mer, donc des bouées, des bateaux. Il va être celui qui va voir en premier ces éléments-là et il va les annoncer à l'officier de quart qui est sur l'arrière. Donc, comme il est sur l'arrière, l'officier de quart, il ne va pas bien voir toutes ces choses-là parce que ça peut être masqué par des voiles, par des cordages. Le veilleur a vraiment un rôle essentiel. Et parfois, on a même une voile qui est totalement à l'avant, qui peut être établie, qui va masquer la vue. Donc, on va envoyer le veilleur à l'avant de cette voile sur le mât de Beaupré. Donc, il sera assis, alors pas à califourchon, mais presque, sur le mât de Beaupré et il va surveiller la navigation. Et après, il y a toute la mâture, qui est vraiment une autre dimension du bateau. L'Hermione a fait 47 mètres de tirandaire, ça veut dire qu'entre la mer et le haut des mâts, il y a 47 mètres. Il y a trois étages de voiles carrées. Et après, il y a toutes les voiles triangulaires. Donc, les plus grosses voiles sont en bas. Donc, il va y avoir le mât de misaine qui est tout à l'avant. Il va avoir les trois étages de voiles. La voile du bas, la misaine. La voile du milieu, le petit hunier. Et la voile du haut, le petit perroquet. Après, on retrouve le même système au mât du milieu. Donc, le grand mât, il va avoir la grand voile, le grand hunier, le grand perroquet. Et après, à l'arrière, le mât d'Artimon, qui est à peu près au niveau du barreur. Il n'y aura pas de voile en bas et on va avoir juste une voile au milieu, donc le perroquet de fougue, et une voile en haut qui est toute petite, la perruche. On n'oublie pas la voile qui est tout à l'avant, qui est sur le Beaupré, qui est une voile carrée, c'est la civadière, donc c'est celle qui masque la vue. Et après, on a une voile aurique, c'est l'Artimon, qui est tout à l'arrière. Donc ça, c'est surtout une voile qui va servir pour les manœuvres. Et après, donc, des voiles d'été, donc les phoques, qui sont toutes à l'avant. Et entre les mâts aussi, on va retrouver des voiles d'été. Je crois qu'actuellement, on en a 17, mais on n'en a pas autant qu'à l'époque, en fait. On les a pas toutes refaites.
On change de vent, brasse la misaine. Largue ton faux bras, Simon. Largue les murs. On reprend les coudes en même temps. Allez, brasse, ça. On brasse.
Oh, Is. Oh, Is.
Ça commence à être raide, Steph.
Je vais tourner au bras.
On reprend le hauban au vent.
L'équipage de l'Hermione, ça va être à peu près une quinzaine de marins professionnels. Donc le commandant, ses trois officiers de quart, le chef mécano, donc, il est tout seul, lui en machine, mais bon, il a quand même pas mal de taf. Ensuite, ben, l'équipe cuisine, le chef cuistot, le second et le messman. Alors je dis le, hein, mais ça peut être des nanas. Hein. Et après, donc, on a les maîtres, le maître charpentier, le bosco et le maître voilier. Ensuite, il y a les chefs de tiers, c'est des matelots très expérimentés. Donc, il y en a un par tiers, par groupe de gabiers, en fait. Et après, ils ont un assistant, donc un adjoint chef de tiers, et qui est un matelot aussi, mais un petit peu moins formé, quoi. Et donc, ces deux matelots-là, ils vont encadrer un tiers de 18 gabiers. Et donc, les gabiers, donc, c'est pas forcément des marins professionnels, c'est des gens de la vie de tous les jours. Ils se sont portés volontaires pour embarquer sur l'Hermione et qui ont suivi une formation. La formation, elle est dispensée à Rochefort par les marins pro de l'Hermione. Pendant la formation, il y a un test d'ascension pour voir si on arrive à monter dans la mâture. Il est assez difficile, parce que quand on n'est pas habitué à monter, ben, c'est assez impressionnant. Ouais, j'en ai chié. Parce qu'en fait, sur l'Hermione, il y a les haubans qui permettent de grimper dans la mâture. Donc, c'est comme si on montait à une échelle, sauf que ben, c'est un petit peu bout. Et plus on monte, plus c'est resserré et au moins on a la place pour mettre les pieds. Et puis, quand il faut changer d'étage, il y a une échelle, mais à l'envers. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a juste vos bras qui vous tiennent. Donc, ça veut dire que si jamais ben, vos mains lâchent, vous tombez. Vous avez harnais. Donc, vous ne tombez pas très bas. Mais en fait, c'est ce petit moment-là de passage en dévers qui est assez effrayant, surtout quand on n'est jamais grimpé pas plus haut qu'une échelle. Quoi. Et donc, c'est ce moment-là qui va être un peu le test pour les nouveaux gabiers. Les 18 gabiers du tiers, sur les 4 heures de leur quart, c'est eux qui vont manœuvrer les voiles. L'Hermione, le but, c'est qu'elle avance à la voile. Les moteurs, ils sont juste là pour dépanner et puis pour faire les manœuvres portuaires. Donc, pour pouvoir avancer à la voile, il ne suffit pas juste de lâcher des bouts, faire tomber les voiles et puis, pizou, ça avance, quoi. Il faut les brasser, donc, c'est-à-dire les orienter. Il faut les border, donc les orienter et les tendre pour que le vent circule bien à l'intérieur et que la voile devienne propulsive. Il faut aussi, ben, quand le vent devient trop fort, les fermer. Donc, en fait, selon la voile, soit on va faire descendre le bout de bois qui tient la voile, donc la vergue, on va descendre la vergue. Comme ça, ça va fermer en quelque sorte la voile. Et après, on va la carguer. Donc, on va remonter les extrémités inférieures vers le haut pour vraiment étouffer la toile. Une fois que ça se sera fait depuis le pont du bateau, que les gabiers ils vont grimper dans les haubans, dans la mâture, ils vont aller sur la vergue, donc le bout de bois qui tient la voile, et puis ils vont essayer de récupérer toute cette toile qui va faire comme un gros ballon. Ils vont tout ramener sur la vergue et ils vont saucissonner ça. Donc ça s'appelle serrer une voile. Et donc, ce travail de serrage, en fait, peut vraiment se faire que depuis la mâture, quoi. Donc, pour ça, il faut pouvoir monter. Et en général, quand on monte pour serrer une voile, c'est que le vent, il est plus fort qu'avant. Il ne faut pas avoir peur de monter quand il y a beaucoup de vent et que ça bouge. J'ai embarqué en tant que gabier. C'est l'année où elle a été aux États-Unis. C'était son voyage inaugural. On est parti en tout, je crois que c'était 5 mois et demi. Et donc, sur ces 5 mois et demi, c'était partagé en plusieurs legs. Donc, en fait, c'est des morceaux de voyage. Chacun avait un ou plusieurs legs de navigation. Moi, j'ai eu de la chance, j'ai pu faire tous les legs parce que j'étais officier de marine marchande. C'est-à-dire que je pouvais éventuellement remplacer des membres de l'équipage. Et donc, sur ce voyage-là, je me suis formée au début auprès des officiers de quart. Et puis après, j'ai pu remplacer un lieutenant, j'ai remplacé des matelots, j'ai remplacé le chef mécano. Donc l'Hermione est partie de Rochefort. Et puis après, on a été jusqu'aux Canaries. Après, aux Canaries, donc on a fait la traversée de l'Atlantique jusqu'aux États-Unis. On est arrivé à l'embouchure de la baie de la Chesapeake. Et notre première escale, alors ce n'était pas vraiment une escale officielle, c'était plus une escale pour les papiers, quoi. À Norfolk, on a remonté la Chesapeake et on était jusqu'à Yorktown. Et c'est un peu magique. On est arrivé, il y avait de la brume. Moi, je voyais trop un film, quoi, avec ce bateau de guerre qui sort de la brume et qui arrive dans cet endroit. C'était super beau. En plus, il y avait de la végétation partout. Il y avait des petits bateaux classiques à droite à gauche. Et on a été accueillis par les Américains. Ils étaient super contents de nous voir. Ils avaient décoré toute la ville, ils étaient en costume historique, enfin voilà, c'était magnifique. Donc après, on a continué à remonter la Chesapeake, on a été jusqu'à Alexandrie, donc c'est une ville qui est juste à côté de Washington. On a pu aller visiter Washington. Par la suite, on a pris un canal qui faisait la communication entre la Chesapeake et la baie du Delaware. Et donc, pour passer dans ce canal, il a fallu passer sous des ponts. Et Hermione, avec ses grands mâts, elle passe pas sous les ponts. Donc, pour pouvoir passer, en fait, on est obligé de caler bas les mâts. Donc, les mâts, c'est pareil, ils sont en 3 étages et on peut les descendre. C'est pas mal de boulot, il faut déposer les vergues, il faut installer des cordages qui permettent de les remonter un petit peu. On enlève la cale qui est sous le mât. Après, on descend tranquillement le mât au cabestan. C'est à ce moment-là qu'on utilise les cabestans. Donc, tout le monde est autour. On enroule le cordage, ça s'appelle la guindresse, autour du cabestan. On retient en fait le mât pour pas qu'il descende tout d'un coup avec les gens qui sont autour du cabestan sans la force mécanique en quelque sorte. Il n'y a pas de moteur, quoi. C'est des gabiers. Donc, pour pouvoir passer sous ces ponts, donc on a calé bas les mâts. Après, on est passé et après, on a guindé les mâts, donc on les a remontés. Et donc, on a continué notre périple. On est sorti de la Delaware et on a continué à remonter le long de la côte américaine. On a fait l'escale à Boston aussi. Donc, en fait, c'était l'escale d'origine à laquelle en fait, Lafayette était arrivé en premier. Et après, donc, on a continué, on a passé le Cap Cod et puis on est remonté jusque dans le Maine. Après, on a été au Canada, donc on a été à côté de Halifax. Et ensuite, on a été à Saint-Pierre-et-Miquelon. Puis après Saint-Pierre-et-Miquelon, on a traversé à nouveau l'Atlantique. Donc là, ça a été beaucoup plus compliqué qu'à l'aller, parce qu'à l'aller, on avait les vents pour nous, c'était un peu la croisière fameuse. Et puis par contre, au retour, on n'avait pas des vents favorables à la hauteur de Saint-Pierre-et-Miquelon. Donc on a dû descendre jusque à peu près à la hauteur de Washington pour choper le passage des dépressions. Et donc, on a suivi, les dépressions nous ont poussé jusqu'à Brest. Et là, c'était plus sportif, mais on demandait que ça aussi parce qu'on voulait voir un peu ce que donnait le bateau dans le gros temps, quoi. Et donc, on est arrivé à Brest et là, on était bien rincés. Et par contre, on a été super bien accueillis. On a été mieux accueillis à Brest qu'à New York, quoi. Les escales, en général, on essaye, donc quand c'est possible, d'arriver en costume d'époque. Ça fait toujours plaisir au public de voir tout le monde habillé en tenue. Alors nous, les officiers, quand j'étais officier, c'était vraiment le costume avec la veste rouge et bleue, les collants rouges. Alors, je peux vous dire, c'est pas facile à porter. Mais bon, nous, au moins, on n'a pas froid. Et par contre, bah, les gabiers, eux, c'est la petite chemise en lin, puis un petit pantalon. Quand ils ont de la chance, ils ont une petite veste sans manches. Mais bon, voilà, c'est un petit peu léger, c'est pas toujours évident à porter. Et donc, ouais, en général, quand le bateau arrive à quai, souvent, il y a quelques champs de marins à l'arrivée. Et puis après, donc, visite des officiels. Le commandant est invité à terre, souvent, avec une mère ou enfin, des autorités. Et puis, bah, nous, Gabier, on fait visiter le bateau. Le bateau est ouvert au public et donc les gabiers sont sur le pont et ils expliquent un petit peu ben, le fonctionnement du bateau, les voiles, les cordages, la vie à bord. Mais bon, ben, c'est bien de faire ça parce qu'on se rend compte que les gens ne s'imaginent pas en fait ce que peut être la vie sur un bateau, comment ça peut fonctionner. Ça fait plaisir de partager aussi ce qu'on a vécu, quoi. C'est un peu grâce à eux. Grâce au public canadien, il fait des sous pour naviguer. Et, donc, bah, c'est les visiteurs qui financent ça, c'est les adhérents. Après, ça va être tous les événements qu'il va y avoir dans la journée. Donc, par exemple, des échanges avec des écoles. Des fois, le soir, c'est des privatisations. Ça va être une entreprise qui va louer le bateau pour faire un repas, pour faire une fête, un petit concert avec ses employés. Et ces événements-là, ça permet au bateau de récolter des fonds pour payer l'équipage, la nourriture, la logistique, le fuel. On fait le quart, on est 18 à faire le quart, plus un officier, plus parfois un maître. Quand on a connu l'écart sur les cargos, on est tout seul avec son matelot et qu'on passe des quarts sur l'Hermione où on est 20, c'est pas la même en fait. Ça peut être long et ennuyeux, ou autant ça peut être hyper intéressant, on peut discuter avec les gens, ou bien on n'a pas un moment pour soi, on est tout le temps en train de régler les voiles, border, brasser, carguer. Il faut essayer d'optimiser sa voilure. Donc tu peux te dire que le vent il va pas du tout changer pendant ton quart, mais ça c'est pas dit. Et puis après tu peux te dire bon bah je vais essayer de régler telle ou telle voile pour que ce soit. On arrive à remonter un petit peu plus au vent, on fait des essais pour voir quel est le meilleur réglage. La personne avant toi, bah, peut-être qu'elle a abordé un peu plus cette voile, bah, celle-là elle a peut-être établi, mais du coup le bateau il travaille moins bien, donc bah, on va essayer de la carguer, puis là on va se rendre compte que oh, bah, non, bah, il avait raison, bah, on va la remettre. C'est intéressant aussi pour tout le monde d'apprendre en fait. Pour les gabiers, bah, eux ils demandent que ça, alors pas trop quand même, il bah, ne faut pas non plus les mettre sur les genoux. Apprendre à chercher dans la nuit où est tel cordage, par exemple, qu'on ne met pas de lumière. Donc, de nuit, il faut arriver à se repérer et savoir que ben, ce cordage-là, ben, c'est la cargue de la grand voile ou autre chose. Ils aiment bien aussi monter dans la mature pour s'entraîner. Donc, en fait, voilà, c'est une formation permanente qu'on essaye de manœuvrer un peu, même s'il n'y a pas grand-chose à faire. Hermione, elle va à peu près à la moitié de la vitesse du vent, jusqu'à 25 nœuds de vent, elle va à la moitié. Quoi. Après, 25 nœuds, elle ira pas plus vite parce que tu es obligé de réduire, en fait. Même avant. Selon l'orientation du vent, tu vas devoir réduire ta voilure plutôt ou pas. Donc, par exemple, quand tu es vent arrière, tu peux réduire ta voilure un peu plus tard. Par contre, quand tu es au pré, tu pourras réduire ta voilure plus tôt. Que tu as le vent relatif en fait, qui va réellement s'appliquer sur tes voiles. En moyenne, elle atteint facile les 8 nœuds, voire 10 nœuds. Après, tu arrives à gratter ouais, 11 nœuds, ça commence à être un peu juste. Après, ils ont réussi à faire des pointes jusqu'à 13-14 nœuds. Je retournerai gabier. Les gabiers, quand on s'amuse le plus. Quand on est gabier, on est un peu inconscient du danger. Parce qu'on se dit, ouais, c'est pas grave, les officiers gèrent. Et puis, on a entièrement confiance en eux. Mais sauf que quand tu es officier, tu te dis, ouais, bah, j'ai la vie de 80 personnes à gérer. Ben, là, c'est pas la même. Quoi. Je crois qu'on était en train de sortir du détroit de Gibraltar. Il y avait gros temps. Il fallait qu'on envoie du monde pour serrer les perroquets, donc fermer les voiles en haut. On était vent arrière, donc on s'était dit, bah, ça va, tranquille, on peut laisser un petit peu plus longtemps porter, quoi. Sauf que, ben, en passant le cap, le vent a tourné. Et ben, là, quand le vent arrive un peu plus sur l'avant du bateau, les voiles subissent plus d'efforts, la mâture subit plus d'efforts. Donc, c'est-à-dire qu'il faut absolument les fermer maintenant, surtout que ce sera trop tard, quoi. Et en plus, on ne pouvait pas changer de cap parce qu'on était dans le détroit, quoi. Donc voilà, on n'avait qu'une seule solution, c'est envoyer du monde là-haut pour fermer les voiles. On a envoyé des gabiers et des marins pros aussi, parce que là, il fallait vraiment assurer. Et je me souviens, bah, là, j'étais petit car et je voyais mes copains qui étaient là-haut à se faire secouer. Le mât, il faisait des à-coups avec la voile qui flappait dans le vent, quoi. Ça faisait des à-coups et je me viens à pied, je me dis, oh, putain, j'espère que ça ne va pas casser. Là, tu dis que tu vas voir tes copains partir au tas et parce que tu n'as pas fait une action au bon moment. Là, j'ai vraiment eu peur pour mes copains et heureusement, ça s'est bien passé. Et, voilà, ils ont réussi, ils ont vraiment galéré. Je pense que eux, là-haut, ils ont bien peur aussi. Et ça, on ne vit que sur l'Hermione, en fait, ce moment-là. D'être dans un poste avec 18 personnes mixtes, où il y a, y en a qui sont dans des bannettes, il y en a qui sont dans des hamacs, et puis on a juste un tout petit coffre pour mettre ses affaires, enfin il y a un bordel pas possible, il faut retrouver son bazar. Et puis à un moment, il y a le messman ou la messwoman qui arrive avec un sac de linge, et puis qui vide tout, et là, il y a des fringues de tout le monde pour trouver ses chaussettes. Il y a ça, après il y a le pont qui fuit, donc quand il pleut, vous êtes content de ne pas être sous la gouttière parce que là, vous prenez la pluie quand vous dormez. Cette alternance de manquer de tout pour apprécier le peu de choses de la vie, tout apprécier quoi. Par exemple, tu reviens, apprécier regarder une fleur, rien que ça, tu vois, sur un bateau, il n'y a pas de fleurs, il n'y a pas de verre, il n'y a pas de vie, quoi. Il n'y a que de la tôle et de la peinture et du bruit. Apprécier le silence, alors nous, on le trouve nécessaire, mais je pense que ça ferait bien à beaucoup de gens d'être privé de toutes ces choses-là pour pouvoir arrêter d'être agressif pour rien, se rendre compte qu'on a tout, en fait. On vit dans un pays hyper chanceux. Enfin, moi, je vois l'île de Ré, c'est un petit paradis, et j'hallucine. Enfin, je croise des gens dans la rue qui roulent en Porsche Cayenne, je ne sais pas quoi, qui font la gueule et qui ne sont pas fichus de dire bonjour. Mais qu'est-ce qui vous manque, quoi ? Vous avez tout. Et ce métier-là, ça nous permet, si on est un peu à l'écoute, hein, parce qu'aussi, il y a des gens qui ne comptent plus et qui ne comptent pas, ça nous permet de pouvoir apprécier un peu de la vie. Au début, on a envie de partir, on a envie de découvrir par la mer ou par la terre. Alors moi, la mer a été un moyen. Parce que c'est le métier que j'ai choisi et c'est un moyen de partir découvrir, mais c'est aussi un moyen de s'isoler en fait. On se rend compte que quand on est sur un bateau, on a vite tendance à se fermer sur soi et à vivre sa petite vie sans tout le monde. Ça a du bon et du mauvais en fait. Parce que on se rend compte que, par exemple, quand on est dans une situation à bord et que ça ne va pas, on tourne en rond en fait dans ce mood, quoi, dans ces idées noires, et en fait, ça peut vite devenir profond, quoi. Il faut faire attention à ça, en fait, en mer, parce qu'on a tendance à virer à l'obsession sur des petits détails, Et il suffit d'un petit coup de fil ou d'un truc pour nous faire penser que ah ouais, mais en fait, la vie continue ailleurs et c'est tout ce qui ne va pas aujourd'hui ou cette semaine. Pas grave, en fait, c'est rien, quoi. Et je trouve qu'en fait, de partir comme ça, ça me donne envie de découvrir aussi la Terre. Par exemple, j'ai demandé un an de congé sabbatique. J'ai jamais vécu ça depuis que j'ai quitté l'école, mais de passer un an à Terre, de voir les saisons sur un an, de vivre avec ses amis et sa famille pendant un an, alors en bossant, hein, bien sûr, hein, mais bah, ces choses-là, on les retrouve en fait. Et d'être parti en mer et d'en avoir été privé, eh ben, on retrouve le goût des choses simples. La mer, ça permet aussi de nous retrouver et de retrouver ce qu'on aime.
L'Hermione est malheureusement mal en point ces derniers temps, dû à l'invasion d'un champignon parasite. Toute l'équipe se mobilise pour la remettre à flot, afin de continuer à faire rêver petits et grands. Marion a maintenant rejoint l'équipe à plein temps, pour prêter main forte sur le chantier à Anglette. Vous aussi, participez en soutenant le projet pour que l'Hermione puisse continuer à naviguer. Retrouvez le portrait de Marion sur le site du podcast womenofthesis.org. Dans le prochain épisode de Women of the Seas, peaufinez vos manœuvres avec Julie, coach et monitrice de voile.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Your personal info, like addresses, phone numbers, and more, are collected and sold by data brokers. But Aura steps in, scanning the web, sending you alerts, and requesting your info be removed. Get Aura's full toolkit, including credit and transaction monitoring, a password manager, VPN, and more. Get a 14-day free trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.